J'ai besoin que tu arrives rapidement. En effet, on croit tout à fait que tes amis nobles seront opposés à mon élection. Je prévois que pour me concilier leur sympathie, tu me seras très utile. C'est pourquoi, dès début janvier, comme tu l'as décidé, veille à être à Rome. Lettre de Cicéron à son ami Atticus.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Cicéron, de son vrai nom Marcus Tullius Cicero, est un personnage important du 1er siècle avant Jésus-Christ et de l'histoire de la fin de la République romaine. Cicéron est né en 106 avant Jésus-Christ, à Arpinium, à une centaine de kilomètres environ au sud-est de Rome. Il est issu d'une famille équestre, donc il n'appartient pas à la grande noblesse sénatoriale, mais grâce à un mariage avec une jeune femme de la famille des Terentii, il peut accéder progressivement à cette noblesse et donc au Sénat. Ce qui est caractéristique de Cicéron, c'est que c'est à la fois un homme de parole, de réflexion et d'action. Homme de parole parce qu'il est avocat. Et sa réputation est importante à Rome, tout particulièrement à partir de 70 avant Jésus-Christ, puisqu'il a réussi à confondre le proconsul de Sicile, Verres, qui avait été extrêmement indélicat vis-à-vis de ses administrés, qui s'était honteusement enrichi sur le dos des Siciliens, et que ceci avait porté finalement le procès à Rome pour essayer de lui faire rendre gorge. Or, Cicéron avait magnifiquement attaqué Verres et l'avait confondu lors d'un procès qui ainsi l'avait rendu célèbre. D'autre part, c'est un homme qui réfléchit également sur la rhétorique. Il fait un traité sur l'orateur, mais également sur la philosophie, avec un traité sur la vieillesse, sur l'amitié, sur les devoirs. Mais c'est un homme aussi qui a beaucoup réfléchi et écrit sur la politique et sur la manière de gouverner l'État romain, au travers en particulier du traité sur la République et sur les lois. On compte également sur sa correspondance, car nous disposons de très nombreuses lettres, dont celle à son ami Atticus. Alors dans cette œuvre variée de Cicéron, il est vrai que la réflexion politique tient une place importante. Cicéron a réfléchi sur la meilleure forme de gouvernement. Il envisageait, je le cite, qu'une part soit faite à l'influence des nobles et que certaines choses soient réservées au jugement du peuple. Ainsi, Cicéron essaye de trouver une voie médiane entre ceux qui défendent une république purement nobiliaire dans les mains de la nobilitas romaine et ceux, les populares, qui veulent au contraire profondément démocratiser ou du moins gouverner au nom du peuple en lui laissant plus de place. Cicéron, de ce point de vue-là, semble être un homme du juste milieu. Mais il réfléchit également à ce que doit être l'homme d'État. Quelles sont les qualités qui permettent d'être un homme d'État? Il envisage, selon lui, plusieurs qualités. D'abord, il doit bien parler dans les assemblées et auprès du peuple. Il doit être un chef militaire, mais également il doit être philosophe, c'est-à-dire réfléchir sereinement et avec modération sur la gouvernance de Rome. On peut dire donc que la pensée politique de Cicéron insiste sur la notion de dévouement civique et qu'il a lui-même essayé de pratiquer. En effet, Cicéron s'est lancé dans des carrières publiques. Il est édile en 69, il est préteur en 66, il est consul en 63. D'ailleurs, 63 marque un moment important de la carrière de Cicéron, puisqu'il va se lancer dans une dénonciation d'un complot organisé par un jeune noble, Catilina, où il va finalement sauver la République d'un complot qui n'était peut-être pas aussi dangereux qu'on a pu le croire, mais qui amène une réelle popularité auprès du consul en charge. Les Catilinaires sont d'ailleurs encore aujourd'hui un morceau de l'éloquence de Cicéron. Ainsi, en 63, on peut estimer qu'il fait partie du paysage public romain. Mais l'engagement politique de Cicéron va lui apporter d'amères déceptions et de cruels déboires. D'abord, il a été obligé, en 58 avant Jésus-Christ, de s'exiler pendant un temps. En effet, il a été accusé par Claudius, un des responsables du Parti populaire, d'avoir fait exécuter les complices de Catilina de manière illégale. Ensuite, il a dû faire des choix capitaux au moment des grandes guerres civiles qui ont secoué la République romaine. Tout d'abord au moment où, en 49 avant Jésus-Christ, le premier triumvirat éclate. En effet, César, rentrant de Gaule, avait franchi le Rubicon en janvier 49, ce que la loi romaine interdisait strictement, puisqu'il avait effectué ce passage avec ses propres troupes. Après avoir hésité quelque temps, Cicéron décida de suivre Pompée le Grand, il quitta Rome et il rejoint Pompée en juin 49. Or celui-ci, l'année suivante, ayant été vaincu à Pharsale, eh bien César est le maître du pouvoir à Rome. Cicéron, escomptant sur, je dirais, une relative amitié et respect de César, rentre dans la ville et va bénéficier effectivement de la bienveillance de César qui lui pardonnera son choix erroné de 49. Durant la période du pouvoir césarien, c'est un homme de l'ombre qui joue un rôle au Sénat, mais qui, à vrai dire, n'a pas les rênes du pouvoir. Tout change un peu avec l'assassinat de César en mars 44, aux Ides de mars. Il crut pouvoir à ce moment-là jouer les premiers rôles et eut l'illusion de pouvoir conseiller le jeune Octave, fils adoptif de Jules César. Or, ce jeune Octave, de 18-19 ans, ne souhaitait pas que celui qui entrait désormais dans la vieillesse joue un rôle de mentor trop important. Néanmoins, il apprécia, dans un premier temps, l'appui politique de Cicéron, d'autant plus que celui-ci prononça, entre septembre 44 et avril 43, toute une série de discours contre la personne de Marc-Antoine. C'est ce qu'on appelle les philippiques. Les philippiques sont en effet des discours d'une extrême violence contre Marc-Antoine, l'adversaire d'Octave. Et ces discours sont appelés philippiques tout simplement parce que c'est une référence aux philippiques de Démosthène contre le roi Philippe II au IVe siècle avant Jésus-Christ. La difficulté que va rencontrer à ce moment-là Cicéron, c'est que Octave et Antoine vont finir par se réconcilier et à se réunir dans ce que l'on va appeler, avec l'épide, le second triumvirat. Dès lors, Cicéron, ennemi juré de Marc-Antoine, est dans une position extrêmement critique. D'autant plus que Marc-Antoine, pour prix de la réconciliation, demande entre autres la mort de Cicéron. Et donc, celui qui a été, même si le terme est un peu anachronique à ce moment-là, un intellectuel de la République romaine, va être ainsi exécuté. Je lis Plutarque dans sa vie de Cicéron. À ce moment-là, survinrent les meurtriers. C'était le centurion Hérénius et le tribun militaire Popilius que Cicéron avait autrefois défendu dans une accusation de parricide. Le tribun, prenant quelques hommes avec lui, se précipita. Cicéron l'entendit arriver et ordonna à ses serviteurs de déposer là sa litière. Lui-même, portant d'un geste qui lui était familier la main gauche à son menton, regarda fixement ses meurtriers. Il tendit le cou à l'assassin, hors de la litière. Suivant l'ordre d'Antoine, on lui coupa la tête et les mains, ces mains avec lesquelles il avait écrit les philippiques. La fin tragique de Cicéron est bien caractéristique de la dureté de la vie politique romaine en ce temps de guerre civile. La tête de Cicéron et les mains de Cicéron ont été exposées au rostre sur le forum pour bien montrer qu'il était dangereux d'écrire et de penser contre Marc-Antoine. Mais Cicéron, malgré sa mort, c'est aussi l'homme qui représente peut-être une certaine vision d'une république en train de mourir. En effet, Cicéron a essayé de trouver un État romain qui puisse respecter à la fois la tradition et le pouvoir du Sénat. Or, tout au long des guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ, cette république ne répondait plus, à la fois sans doute aux attentes des impératoresses, de ces généraux qui s'étaient couverts de gloire comme Pompée ou César dans des campagnes militaires, mais l'immensité des possessions romaines demandait sans doute aussi une modification des institutions, ce que ne comprit pas sans doute Cicéron, et il le paya de manière extrêmement rude en 43 avant Jésus-Christ, quand il tendit son cou pour qu'on lui tranche la tête.